Tu sais, des gens qui demandent, OK, après combien de temps je peux retourner dans mon pays d'origine? Ben, c'est parce que t'es un réfugié, t'es un demandeur d'asile. T'es pas censé retourner dans ton pays d'origine. Ta vie est supposée être en danger.
Ouais. What's up tout le monde? Bienvenue dans un nouvel épisode du What's Up Podcast. Ici votre animateur, Jer Alain, et j'espère que vous allez super bien. L'épisode de cette semaine est possible encore une fois grâce au soutien de nos commanditaires, procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Donc, un énorme merci à eux de continuer de soutenir le What's Up Podcast. Si vous êtes tanné des cafetières qui ne tiennent pas à route puis qui pètent tout le temps, ben offrez-vous une cafetière Bellucci. Et si vous le faites, ben faites affaire avec procafetière.ca parce que c'est eux autres les experts en tout qu'est-ce que rapport avec le café. Situé à Varennes, allez les voir en magasin ou commandez rapidement et en toute sécurité sur leur site internet au procafetière.ca. Et si vous voulez m'aider sur une note plus personnelle, devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Pour 3-4 pièces par mois, accédez au podcast sans publicité et ça dès sa sortie. Donc pas besoin d'attendre des semaines avant qu'il soit disponible pour tout le monde. Fait que là, je viens de finir avec mes pubs, mais si vous aimez le podcast, je vous encourage à en parler à votre entourage, à laisser un petit thumbs up, à y laisser un petit commentaire positif dans la section commentaires. Puis sinon, tout le monde, je vous dis un énorme merci et on se revoit la semaine prochaine. Et bon podcast, tout le monde. Fait que what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Aujourd'hui, je reçois mon nouvel invité, Stéphane de Enfield, avocat en immigration qui a traité plus de 2000 cas. Il y en a même qui se sont rendus jusqu'en Cour suprême.
Ouais.
Mais ouais, puis il a aussi été commissaire à la commission d'immigration et de statut de réfugié pendant plus de 11 ans.
Ouais.
Et ça a fait quand même beaucoup parler parce que en mars 2025, il y a un article qui est sorti à la presse comme quoi tu avais quitté la pratique privée justement. Puis je vais te laisser rentrer dans les détails après mon introduction.
Oui.
Mais gros merci d'être là avec nous autres aujourd'hui.
Eh bien, merci de l'invitation. Ça fait vraiment plaisir.
C'est super apprécié parce que le sujet de l'immigration, c'est un sujet qui est très sensible, mais qui est aussi très complexe. Fait que je suis très content d'avoir quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur parce que c'est ça. Tu vas nous laisser expliquer qu'est-ce que tu faisais comme métier, avocat en immigration, ça fait quoi? C'est quoi que tu faisais? Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces termes-là.
Ben, il faut reculer, il y a 34 ans. Hein, parce que j'ai commencé dans ce domaine-là, ça fait déjà 34 ans. Donc, comme tu l'as mentionné, j'ai été commissaire à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pendant 11 ans. Section de protection des réfugiés, c'est-à-dire que j'entendais des demandeurs d'asile, donc des gens qui se présentaient devant le tribunal et qui exposaient leur dossier, donc qui tentaient de nous convaincre que leur vie était menacée dans leur pays d'origine ou les membres de la famille, donc pour obtenir le statut de réfugié. Donc j'ai fait ça pendant 11 ans. Par la suite, ben j'ai quitté.
Et puis après ça, c'est quoi? Vous approuvez si s'il peut être...
On rend des décisions. Donc, est-ce qu'on rejette la demande de statut de réfugié ou on l'accorde? Donc, si on l'accorde le statut de réfugié, ben à ce moment-là, la personne bénéficie de la protection du Canada et peut soumettre par la suite une demande de résidence permanente et éventuellement une demande de citoyenneté. Okay. Si on la rejette, parce qu'on considère qu'il n'y a pas de motif suffisant, mettons, pour accorder la protection, mais la personne a des recours d'appel, des recours de contestation. Elle peut soumettre des demandes connexes, par exemple, demande de résidence permanente pour des considérations humanitaires, des choses comme ça.
Ça, c'est juste pour ceux qui demandent l'asile?
Effectivement. Moi, je m'occupais que des dossiers de demandeurs d'asile.
OK. Fait que dans le fond, ça ressemble un peu à la commission des libérations conditionnelles. C'est un peu le même principe.
C'est un tribunal administratif. Les deux, c'est des tribunaux administratifs. Okay. Donc, oui, effectivement, c'est les gens présentent leur dossier. Bon, libération conditionnelle, la personne est détenue, est éligible à une libération conditionnelle, fait sa demande. Tu as des commissaires qui étudient le dossier, regardent la preuve, interrogent les témoins, dont la personne, puis décident si on le remet en liberté ou non avec des conditions. Nous, ben, ce qu'on faisait, c'est qu'on décidait si la personne était reconnue comme réfugiée ou non. Évidemment, on n'a pas de conditions à imposer. On ne remet pas quelqu'un en liberté. Mais ça a quand même des décisions importantes parce que t'as pas vraiment de marge de manœuvre puis de place à l'erreur. Là, t'sais, une personne qui est menacée dans son pays d'origine puis que tu te trompes puis que tu la refuses, Oui, il y a des recours d'appel, mais quand même, elle risque l'expulsion, cette personne-là.
Ouais, il y a des vies en jeu.
Ouais. Puis l'inverse aussi, tu sais, une personne qui, tu sais, moi, j'ai été pendant plusieurs années responsable d'une section des cas complexes où on étudiait les dossiers de personnes qui étaient accusées d'activités terroristes. Donc, qui demandait le statut de réfugié. Alors, évidemment, tu ne veux pas te tromper non plus. Tu veux t'assurer que tu n'accepteras pas un terroriste comme mais réfugié. Oui. Fait que c'était des décisions importantes. Fait ça pendant 11 ans. Tu es vraiment privilégié de faire ça.
As-tu commencé comme ça? Non,
j'ai commencé en pratique privée.
C'est ça, OK.
Puis par la suite, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler à Montréal à la Commission de l'immigration. 11 ans. Puis, après 11 ans, ben là, le moment était venu de retourner à la pratique privée. Donc, j'ai parti mon bureau. Puis, j'ai fait ça jusqu'à... En fait, mars 2025, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de mettre un frein à ma pratique. C'est-à-dire que je ne prenais plus de nouveaux dossiers. J'ai dit, c'est terminé. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé quelques dossiers de résidence permanente qui étaient en cours de traitement pour finaliser ça. Et depuis, c'est ça, un an, je ne prends pas de nouveaux dossiers. Je n'en ai pas pris. Donc, j'ai aussi commencé à préparer la fermeture du bureau. Pourquoi? Parce que je savais que les élections 2026 arrivaient puis que j'avais de l'intérêt à me représenter. Hein. Je pense que ce n'est pas une cachette pour personne. J'ai été candidat en 2022 pour le Parti québécois dans Masson, qui est dans la région de Mascouche-Terrebonne. J'ai continué à militer. J'ai hérité du dossier de co-porte-parole en matière d'immigration. Hein. Le chef, au lendemain des élections 2022, a créé cette équipe-là de co-porte-parole. Donc, il était 12 anciens candidats. Et Paul nous a attitré des dossiers propres à notre champ d'expertise. Moi, évidemment, c'est l'immigration. Fait qu'il m'a donné ce dossier-là.
Ouais.
Fait que c'est sûr que quand le temps arrive, passe, tu dis, écoute, 2026, ça arrive à grands pas. Fait qu'on a commencé. Je t'ai rendu là. Passer à autre chose.
Puis c'est quoi que tu faisais comme dans la pratique privée? Ça ressemble à quoi, là? Parce que, tu sais, je sais, j'ai une idée, ça doit ressembler à quoi, mais je suis sûr qu'il y a plein des affaires, je sais pas. Je sais pas, c'est qui, maintenant, de la clientèle qui venait te voir, à quoi ça ressemblait?
C'était diversifié, j'avais pas un créneau. Tu sais, j'ai des collègues, mettons, qui vont dire qu'ils vont se concentrer sur des dossiers, mettons, d'Afrique, du Moyen-Orient, de l'Amérique du Sud, de l'Asie. Moi, je voulais pas me limiter à une région géographique. Moi, ce qui m'intéressait, puis avec le temps, de plus en plus, c'était le dossier. Y a-tu des enjeux intéressants, tu sais, à débattre? Y a-tu une question juridique qui est plaisante à aller contester? J'ai fait des gros dossiers. Là, des dossiers complexes, des histoires de sécurité nationale, d'espions, puis tout ce que tu veux.
Ça a fait quand même beaucoup les manchettes.
Oui, c'était des gros dossiers, puis c'est ça qui m'allumait. Pourtant, j'ai des collègues qui détestaient ce genre de dossier-là. Fait que venez-vous-en. Puis à un moment donné, ça me collait. Hein. Je veux dire, il y a eu une étiquette qui m'a collé, qui m'a été attitrée, que écoute, les dossiers particuliers, tu vas voir Enfield, puis il a de l'air à bien aimer ça, les faire, ces dossiers-là.
Fait que il va se donner cœur et âme pour tout.
Oui. Oui, effectivement. Mais c'est ça. Fait que moi, j'étais pas le genre d'avocat, puis je veux pas dénigrer ça, là, mais tu sais, j'ai des collègues qui, eux, allaient plaider, ils faisaient de l'urticaire. Il voulait pas se présenter devant la cour, donc il faisait plutôt du travail clérical. C'est-à-dire, il faisait plus de l'immigration économique, entre autres, mettons, compléter des formulaires, déposer des demandes, okay, des dossiers papiers. Mm. Il se présentait jamais devant la cour. Moi, si j'avais fait ça, je serais mort après 6 mois. Là, ouais. J'avais besoin d'aller devant la cour, de défendre un dossier, de défendre une cause. Alors, c'était des dossiers, par exemple, de demandeurs d'asile. J'ai fait évidemment beaucoup de dossiers de demandeurs d'asile. J'ai fait des dossiers d'enquête, d'interdiction de territoire, crime organisé, sécurité nationale, grande criminalité. Des dossiers de parrainage, réunification familiale. Résidence permanente, résidence temporaire, demande humanitaire. Donc, tout le volet, mettons, humanitaire et litige. Quand je dis litige, c'est plaider devant la cour. Donc, j'ai eu, pour vrai, parce que là, on peut dire que j'ai accroché ma toge depuis mars 2025. Je fais plus aucune représentation devant les tribunaux. J'ai eu le privilège vraiment de plaider devant toutes les instances. Mais quand je dis toutes les instances, là, que ça soit
co-municipal, Cour du Québec, Cour supérieure, Cour d'appel du Québec, Cour suprême. J'allais deux fois à Cour suprême.
C'est la plus haute cour, là, ça.
Ouais, après ça, ben, tu t'en vas à
Cour... Y avait-tu les perruques?
Pénal international. Non, mais à Londres, oui. Je suis allé visiter...
Tu étais à Londres?
Oui, je suis allé, ben, pas pour le travail, comme touriste. Okay. Puis je suis allé visiter la cour... C'était-tu la cour d'appel? La cour d'appel, ouais, de Londres.
En Australie aussi, ils ont puis, des astis de perruques les... sur la tête.
Ben, moi, j'ai pas des astis de perruques, là.
Mais il y avait des ridicules.
Mais les avocates, les avocats ont la perruque. Les juges ont la perruque.
Ont-ils le marteau aussi?
Écoute, je me souviens plus, c'est le marteau. mais heureusement, moi, quand j'ai commencé, il n'y a pas de perruque. Puis, je suis pas sûr que je me verrais bien avec une perruque. Ouais. Bon, ça me ferait pas bien, bien. Ouais. Mais non, c'est ça. Fait que Cour suprême, puis du côté fédéral, bien évidemment, Commission de l'immigration, il y a quatre sections. J'ai fait les quatre. Cour fédérale, Cour d'appel fédérale, puis évidemment, bon, Cour suprême, comme je le disais. Mm-hmm. Fait que honnêtement, je me sens privilégié des dossiers que j'ai pu avoir parce que ça m'a quand même permis de me dépasser puis me surpasser dans plein, dans plein de situations.
C'est sûr et certain. Ouais. Puis ça ressemblait à quoi? C'est que, dans le fond, tu vas là, puis tu t'es aides à plaider leur cause, dans le fond, de dire, hey, voici pourquoi vous devriez accepter son dossier. Ou
un genre, peu plus compliqué que ça.
Oui, c'est ça.
C'est, ben, en fait, si on prend un dossier de demandeur d'asile, parce que c'est principalement de ça qu'on parle, c'est avant d'avoir l'audience devant le commissaire où tu vas plaider, où tu vas interroger ton client, il y a tout un processus, il y a un processus de préparation à cette audience.
Ah, ça doit être fucking
long. Tu ne peux pas juste arriver, OK? Et dépendamment aussi des témoins de ton client, tu as des clients qui sont super sûrs d'eux, qui témoignent super bien, que donc tu les prépares, mais tu sais que ça va bien aller. Tu as des gens qui ont la moindre question, et écoute, ils bloquent. C'est pas parce qu'ils sont pas crédibles, pas parce qu'ils veulent mentir.
Ils sont stressés,
ben sont nerveux. Quand tu fais une demande d'asile, habituellement, c'est parce que tu as vécu des choses traumatisantes dans ton pays d'origine. OK? Bon. On parle de ceux qui utilisent cette voie-là pour les bonnes raisons. Mm-hmm. OK? On va parler de ceux qui tentent de contourner le système, mais ceux qui utilisent cette voie-là parce que leur vie est en danger, ils ont vécu des événements traumatisants. Mais quand tu leur poses des questions sur ce qu'ils ont vécu, veux pas, ça les ramène à revivre ces événements-là. Fait que ça se peut que leurs réponses ne sont pas aussi sharp que tu le souhaites. Fait que ça prend plus de préparation. Il faut que tu les mettes en confiance. Puis, tu sais, une femme qui a vécu une agression sexuelle, là, puis qui rentre dans le bureau de Stéphane Enfield, là, ben, c'est pas sûr qu'elle va commencer spontanément à me raconter sa vie comme ça.
Ouais, t'sais. Son histoire.
Fait que ça prend, mettons, un certain temps avant d'établir une relation de confiance.
C'est ça.
La cliente, toi. Faut pas que tu sois pressé, t'sais, faut que tu permettes. Fait que, t'sais, si tu dis, ben moi, là, t'sais, c'est 2 heures de préparation, puis c'est tout, ben, change de job parce que tu y réussiras pas, là. T'sais, faut pas que tu comptes tes heures, puis faut que tu prennes le temps nécessaire pour pouvoir mener à terme un dossier. Puis après ça, ben, t'as les documents. Il faut que tu essayes de documenter, puis les allégations. Fait que si la personne dit, mettons, qu'elle était membre d'un parti politique ou que son père était membre d'un parti politique, puis c'est à cause de ça qu'elle a eu des problèmes, ben, t'essayes d'obtenir des documents de la famille, dans le pays d'origine, etc.
Il faut que tu prouves qu'est-ce que la demande est.
Ben, c'est sûr que, tu sais, la personne qui va décider du dossier, ben, si tu es capable d'y emmener le plus d'éléments corroboratifs des allégations de crainte de ton client ou de ta cliente, mais c'est sûr que tu aides ta cause. T'sais. Si tu arrives avec les documents, puis bien expliqué, bien documenté, bien présenté, puis que tu as un témoignage cohérent, crédible, qu'il n'y a pas d'exagération, qu'il n'y a pas de contradiction, bien c'est sûr que tu mets les chances de ton côté.
Puis c'est quoi ce système-là, le système de demande d'asile au Canada? Puis pourquoi il est important aussi au Canada?
Bien, le Canada est signataire de la Convention de Genève relative au statut de réfugié. Donc, à partir du moment où un pays est signataire d'une convention, il y a une obligation morale, si tu veux, là, de respecter ses obligations. C'est pas une obligation légale, en tout cas, si on pourra en débattre longtemps avec des avocats constitutionnalistes, là. Moi, pour moi, t'as une obligation morale, t'as pas une obligation légale. mais quand même, tu es signataire, un pays signataire, il faut quand même qu'il respecte sa signature. Donc, étant signataire de la convention qui a été créée là, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, bien, on a créé ce système-là qui est donc de protection. C'est un système qui est géré par le gouvernement fédéral, ça faut le rappeler, parce que hein, l'immigration au Québec, là, dans certains cas, c'est un partage de compétences entre Québec et Ottawa, sauf pour les demandeurs d'asile. Donc, c'est un système créé par le fédéral, géré par le fédéral. La loi qui est appliquée, c'est la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. C'est une loi fédérale. Et le tribunal, qui est la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, ben c'est un tribunal administratif fédéral.
Ouais. OK. Ouais. Puis là, tu en as parlé un peu, là, que c'est ça, maintenant, il est rendu avec un problème de contournement. Là. Tu veux-tu parler de ça? Parce que tu disais que c'était pas de même, voilà 30 ans.
Tu sais, moi, je pense qu'on avait un bon système d'immigration, un bon système d'octroi d'asile. Toujours place à l'amélioration, il n'était pas parfait. Mais quand est arrivée l'histoire du chemin Roxham, hein, du fameux chemin Roxham, ben, au début, c'est sûr que c'était des gens qui craignaient d'être arrêtés hein, par les autorités américaines. On se souviendra de Trump, hein, 2016, était arrivé puis avait décidé de mettre un terme et de mettre la hache dans les statuts temporaires là, de personnes aux États-Unis, ce qu'on appelle les PTS, là, les TPS, donc les gens, les permis de séjour temporaires pouvaient demeurer aux États-Unis avec une certaine protection. Trump est arrivé puis il a annoncé qu'il allait abolir tous ces permis-là. Et là, on parlait d'à peu près, à l'époque, je pense que c'est comme 600 000 personnes.
Okay.
Donc les gens avaient vraiment peur de retourner dans leur pays d'origine. Donc là, chercher une voie, chercher une solution.
En étant aux
États-Unis. Donc, c'est la voie la plus facile, bien évidemment, c'est le Canada. Puis là, ben, tu as eu le fameux tweet, on se souviendra, de Justin Trudeau. Hein, à ceux qui fuient la persécution, le Canada va vous accueillir. Donc là, les gens ont découvert le chemin Roxham. Le chemin Roxham, ben, si on se souvient, là, par les images qu'on a vues, c'est un bout de terre. Tu arrives, tu traverses, tu n'as même pas une clôture à franchir. Là, c'est un petit fossé, tu traverses, puis tu es rendu au Canada. Et donc, de plus en plus de gens passaient. Et le gouvernement fédéral ben, a vu que ça commençait à être un problème hein, d'accueil de ces gens-là. Donc, a décidé de faire des installations. Donc, il a investi dans des installations pour la GRC, l'Agence des services frontaliers, pour accueillir ces gens-là. Sauf que là, avec le temps, ben, les gens qui, au départ, utilisaient cette voie-là parce qu'ils craignaient, ben là, de plus en plus, les gens ont vu une façon de contourner. Et là, je veux bien qu'on se comprenne, je ne dis pas que tous les gens qui sont passés par Roxham, c'est tous des menteurs puis ont tous contourné le système d'immigration. Je dis que de plus en plus, c'est ce que moi je voyais, c'est ce que moi je constatais, c'était le constat de ma pratique, que là, c'est de plus en plus des gens qui, finalement, auraient dû soumettre des demandes d'immigration, mais parce que probablement qu'ils n'auraient pas rencontré les critères, donc ils n'auraient pas été sélectionnés, ont vu cette possibilité d'immigrer au Canada, au Québec, via le chemin Roxham. Donc, on rentre, on fait une demande d'asile, accès à un permis de travail, on travaille. Puis, bien évidemment, avec les délais que ça prend, ben ça prend des années avant qu'on puisse traiter un dossier. Donc, ces gens-là ont comme misé ou ont fait le pari que c'était peut-être plus la voie la plus facile pour eux. Parce que, bon, c'est pas tous des gens qui ont traversé là, ben, les marécages puis la jungle passant là, pour arriver aux États-Unis. T'as des gens qui étaient bien confortablement assis dans des cafés, qui ont entendu parler du chemin Roxham, qui ont décidé de prendre des billets d'avion dans leur pays d'origine pour les États-Unis, donc un visa de touriste, et ils n'ont fait que transiter, puis prenaient l'autobus ou un taxi pour arriver au chemin Roxham. Là. Donc, c'est pas tous
en
des...
demandant l'asile.
En demandant l'asile.
En étant aucunement persécuté dans leur pays.
Tu sais, J'ai eu connaissance, là, puis pas juste de gens qui m'ont rencontré, mais de collègues qui me disaient, suivant cet article-là, qui ont pris la peine de m'appeler ou de m'écrire pour me dire, écoute, moi aussi, je constate la même chose, que ça a beaucoup changé. Les raisons pour lesquelles on a commencé à faire cette pratique-là, là, 30 ans, ben on les retrouve plus, ces raisons-là. On les retrouve moins, on se retrouve plus là-dedans. Tu sais, des gens qui demandent, OK, après combien de temps je peux retourner dans mon pays d'origine? Ben, c'est parce que t'es un réfugié, t'es un demandeur d'asile. T'es pas censé retourner dans ton pays d'origine. Ta vie est supposée être en danger. Ouais. Alors, tu t'interroges spontanément à savoir, OK, combien de temps après que je peux retourner? Quel service que je peux avoir? Tu sais, les chèques, on me parlait que je pouvais avoir des chèques. Et tout. Fait que, puis encore là, je me répète, je dis pas que tous les gens ont agi de cette façon-là, puis que c'est tous des menteurs. Je dis que moi, quand j'ai commencé, je voyais peu de situations comme ça. Puis avec le temps, j'en voyais de plus en plus, puis c'est un phénomène du chemin Roxham. Je peux pas faire autrement que faire ce constat-là, c'est un constat. Puis ma réalité était rendue ça, puis moi, j'étais plus bien avec ça. J'étais plus bien dans cette situation-là, puis je me retrouvais plus, tu sais. Bon, pendant des années, je me suis senti utile. Okay? Je me disais, je pense que je peux faire une différence dans la vie des gens. Je le voyais moins maintenant. Mm-hmm. Alors, tant que... Tu sais, j'ai mis, moi, pendant 30 ans, là, je rentrais au bureau, là, j'avais pas l'impression de rentrer à la job. Moi, c'est une façon de vivre. Mm-hmm. Tu sais, avocat en pratique privée, c'est un mode de vie. Je suis jamais une journée rentré à reculons au bureau. Jamais. J'étais souvent arrivé le premier le matin, souvent le dernier parti. J'allais au bureau deux samedis par mois, puis sans problème, là. Tu sais, c'était pas... Je m'obligeais pas, là. J'aimais ça.
Plein de dossiers différents.
Mais là, je retrouvais plus ce plaisir-là. Là, j'ai commencé à entrer au bureau à reculons. Là, je dis non, c'est terminé. C'est pas vrai, je vais faire ça encore longtemps. Fait que c'est pas, j'ai pas fait ça contre quelqu'un, j'ai pas fait ça contre les gens, j'ai pas fait ça pour dénoncer le système. Moi, je suis plus bien là-dedans.
Mm-hmm. Mais en même temps, il faut quand même prendre le pouls de ces quests systèmes-là, là, tu sais, mm-hmm. où ce qui sont les failles. Tu sais, si on fait juste se fermer les yeux en se disant, hey, toi, t'es-tu en train de parler contre l'immigration? C'est quoi? T'es-tu raciste? Non, mais Chris, c'est quoi cette discussion-là? Là,
mais malheureusement, quand on parle d'immigration au Québec, souviens-toi, les dernières années, dès qu'on parlait d'immigration, qu'on dénonçait un système, c'est ce qu'on se faisait taxer, d'être xénophobe, raciste, anti-immigrant, alors que pas du tout. Tout ce qu'on souhaitait, puis tout ce qu'on souhaite, c'est d'avoir un système d'immigration cohérent, structuré, planifié, pour que justement les nouveaux arrivants soient accueillis dignement. Tu sais, comme j'ai tout le temps dit, à qui ça rend service si tu viens comme immigrant, je ne suis pas capable de traiter ton dossier dans des délais raisonnables. Mm-hmm. Je ne suis pas capable de t'offrir les services auxquels tu as droit. Qui en bénéficie? Personne. Alors, dénoncer un système qui est rendu débridé, parce que, mot peut-être fort, mais je pense que c'est le mot que j'utilise, je pense que c'est à peu près ça. Ben, c'est pas d'être raciste, au contraire, c'est justement de faire en sorte que les gens qu'on va accueillir, on va le faire dignement. Puis tu sais, Ottawa a commencé justement à bouger sur cette question-là, entre autres des résidents temporaires, puis des demandeurs d'asile. Pas parce que le Québec a dénoncé depuis longtemps, c'est parce que là, les autres provinces canadiennes, eux, ont commencé à dénoncer.
Ouais. Hein?
Les maires des villes ontariennes qui ont dit, là, wow, ça commence à faire, là, cette immigration-là. Le whoop, là, non, c'était plus des racistes. Eux, ils disaient la vérité. Eux, ils faisaient un constat.
Puis c'est pour ça que Justin Trudeau, il a reculé aussi, là, sur
l'immigration. Il a reculé, mais sincèrement, je pense que le tort, il était trop tard. Le tort a été causé, puis on le voit avec bon la capacité d'accueil du Québec qui est dépassée. On voit tous les problèmes. Puis je dis pas que tous les problèmes que le Québec vit est causé par l'immigration.
Non.
Mais si tu as une crise de logement, tout ce que tu fais, c'est que tu accentues ton problème.
Mm-hmm.
Ce n'est pas la cause.
Mais non, c'est multifactoriel. Là,
mais tu peux pas dire que ça n'a pas un impact, par exemple.
Non,
parce que moi, ceux qui disent que la crise du logement est causée uniquement par l'immigration, moi, je décroche. Mais ceux qui disent que l'immigration n'a aucun impact sur la crise du logement, je décroche aussi.
Ben oui. T'sais. C'est ça, là. T'sais, c'est multifactoriel, puis il y a plein de facteurs, puis il faut tous les prendre en considération là-dedans. Là,
t'sais. Quand les gens ne sont pas capables de se trouver des logements, ben les nouveaux arrivants aussi ne sont pas plus capables de s'en trouver des logements. Mm-hmm. Fait que, t'sais, quand je disais « personne en sort gagnant », mm-hmm. c'est exactement ça. Donc, retrouvons un système cohérent, structuré, planifié. Parce que c'est ça le maudit problème avec l'immigration. Depuis les 8 dernières années, avec la CAQ, pas trop bâcheux politique, là, mais c'est quand même ça le constat. On fait des planifications, on fait des consultations publiques pour planifier l'immigration, résidence temporaire, résidence permanente, puis on suit pas. On suit pas les planifications. On y va au gré du vent, au gré des sondages, 3 pas en avant, 4 pas en arrière, 1 pas de côté. Ça a été ça, l'immigration, depuis 8 ans avec la CAQ. Donc, les problèmes qu'on a... Tu sais, je saute peut-être du coq à l'âne, là, mais tu sais, pendant que François Legault sortait sa place publique pour dénoncer qu'il y avait trop de résidents temporaires au Québec, qu'il demandait à Ottawa, il déchirait sa chemise pour qu'Ottawa intervienne, il se faisait tout le temps dire non d'ailleurs, mais que de diminuer le nombre de temporaires au même moment, tu avais son ministère de l'Immigration du Québec qui organisait des missions à l'étranger pour recruter davantage de résidents temporaires.
Mm.
Pas incohérent, ça.
Mais moi, le pire, là, c'est que, tu sais, on y retournera un peu plus sur ce sujet-là un peu plus tard, parce que je veux parler de celle de l'asile avant. Mais c'est que, tu sais, moi, tu me dis ça, puis ça me dit quasiment rien, parce que c'est tellement compliqué, ça, là, tu sais. Puis moi, j'ai l'impression qu'on ne peut pas appliquer quasiment une politique, on va dire peut-être à l'échelle du Québec, tu sais, une politique nationale d'immigration, parce qu'il y a l'air d'être pas les mêmes besoins ici et là. Fait que, en tout cas, moi, c'est un peu ça que j'en comprends.
Oui. Bien, le problème, mettons, si on regarde strictement parlant du dossier des demandeurs d'asile, bon, puis veut pas, il est intimement lié par la frontière. C'est que le Québec, on ne contrôle pas notre frontière, on ne contrôle pas notre immigration.
Ben, c'est ça.
Tu comprends? Alors, si tu ne contrôles pas ta frontière, tu ne contrôles pas ton immigration, puis tu laisses quelqu'un d'autre le faire, ben tout ce que tu peux, c'est dénoncer, te plaindre, mais tu n'as pas beaucoup d'action.
Mmh.
Puis le peu d'action sur cette question-là que le gouverneur du Québec pourrait agir, ben Québec ne le fait pas. La CAQ ne le fait pas. Tu sais, le Parti québécois là, a publié... il y a un peu plus d'un an, un plan sur l'immigration. Et il y avait des propositions dans ce plan-là. Il y a des propositions dans ce plan-là, entre autres sur la situation des demandeurs d'asile. Okay? Dans un Québec province, dans un Québec pays. Bien, ce qu'on a proposé dans un Québec province sur essayer de contrôler le nombre de demandeurs d'asile au Québec, pourquoi la CAQ n'agit pas? Il y a des façons d'agir. Ne veulent pas le faire. Pourquoi? Pour de leur poser leurs questions. Mais le peu de pouvoir qu'on a, ils ne l'utilisent pas. Fait que là, ça, la situation ne peut pas s'améliorer.
Ouais. On va revenir, c'est ça, avec le cas des demandeurs d'asile, tu sais, parce que tu dis ça l'aide pas les demandeurs d'asile, parce que dans le fond, tu sais, même dans l'article, il en parlait qu'en 2013, il y avait environ 10 500 cas que la commission, elle devait traiter. Puis en mars 2025, il était rendu à 272 000.
Oui.
Fait comment que... Puis j'imagine, t'as fait ce job-là avant, là, tu sais, oui. Être commissaire. Fait que comment réussir à bien traiter? C'est impossible? Tu peux pas...
Ça, c'est une excellente question. Parce que là... Au cours des années, ben le gouvernement fédéral, parce que, hein, je le répète, c'est une juridiction exclusive du gouvernement fédéral, la Commission de l'immigration, ont coupé dans les ressources humaines, ont coupé dans les ressources matérielles. Donc, au lieu d'investir pour qu'on puisse traiter les dossiers dans des délais raisonnables, à une époque, là, on tournait autour de 12, 16, 18 mois. Aujourd'hui, avant d'avoir une audience, c'est au moins 2 ans et demi, 3 ans. Alors, c'est ça le problème. C'est que là, tu as des commissaires qui disent « Non, un instant, c'est un travail important que je rends, c'est des décisions importantes, je vais prendre le temps nécessaire d'étudier la preuve, d'étudier le dossier. » Alors que tu as d'autres qui sentent une pression d'aller vite, de tourner les coins ronds.
Hein, parce que
tu as traité des dossiers.
Tu as une charge de travail, ouais. Tu as des évaluations de rendement, tu as des objectifs à atteindre. Alors, tout ça mis ensemble, ben là, tu te retrouves dans une situation où tu as plus d'arrivées, plus de demandes que de décisions qui sortent. Fait que là, ben, ça augmente. Ça augmente. Puis plus que ça augmente, ben, plus que tu augmentes tes délais. Hein. Si tu as 10 000 dossiers à traiter, mm-hmm. tu es capable de les traiter en un an et demi, ben, si tu en as 200 000, je ne pense pas que tu peux les traiter dans le même délai. Mm-hmm. C'est une question mathématique. Là.
Puis tu as parlé du chemin Roxham. Comment que. Puis sans dire non plus que ça vient tout du chemin Roxham non plus, là, mm-hmm. mais comment que c'est. Ce stratagème-là, on peut dire, il a été connu. Comment que ça a été connu? C'est comment que c'est devenu, finalement, à être reconnu dans le monde?
Sincèrement, j'ai pas de maudite idée parce que moi qui travaillais dans le domaine, je savais même pas c'était quoi le chemin Roxham. Sincèrement, là, quand que la première fois on a parlé du chemin Roxham, je pensais que c'était une affaire comme le chemin de Compostelle, tu sais, que le monde allait.
Ah ouais, faire une genre de quête personnelle.
Ouais, c'est ça. Je dis, ouais, c'est de quoi qu'ils parlent? Les gens traversent par le chemin Roxham. Et je blague, là, mais.
Des pèlerins.
Mais oui, c'est ça. Mais c'est ça. Tu sais, il y a des passeurs. Il y a tout le temps eu des passeurs. Qui, eux, ont réussi à toujours trouver une faille ici et là pour passer. Et là, ils ont vu cette voie-là, puis que c'était rendu pratiquement une voie officielle là, de passer. Il y a des gens là, aux États-Unis là, qui étaient dans l'Ouest, qui traversaient de l'Ouest en Est, tous les États-Unis, pour venir traverser au chemin Roxham. Parce que c'était facile, c'était sécuritaire. Tu te passais un petit chemin de terre. Les gens arrivaient avec même pas de broussailles. C'était juste un petit sentier de terre. Les gens arrivaient avec les valises, les poussettes, les enfants, les bébés. Pas mal plus facile que de traverser un lac, une rivière ou des marécages. Là.
Mais il faut quand même se le faire dire. Tant qu'à dire que tu demandes l'asile.
Je vais te raconter une anecdote que je raconte souvent quand je fais des présentations sur l'immigration. Il y a deux individus qui marchent du côté américain, sur le bord d'une route. La voiture de la police américaine arrive, dans des douanes américaines, le U.S. Border Patrol. Arrive, accoste les deux gars, vos papiers, dont deux illégaux aux États-Unis. Techniquement, tu fais quoi? La police des frontières, tu as deux personnes qui sont illégales sur ton territoire. T'es arrêtes, t'es embarques, t'es emmènes devant un juge. Ouais.
Je devine la fin de ton histoire.
Ils demandent, qu'est-ce que vous faites? Vous allez où? Ils disent, on cherche le chemin Roxham. Pas de problème, je vais vous emmener. Et alors, ils les ont embarqués dans le véhicule et ils les ont emmenés direct au chemin Roxham. Ils disent, voici, vous pouvez. Ah, ils ont remis entre les mains des agents de la GRC. Ça, c'est la police américaine. Fait que, tu sais, d'un côté aussi, les Américains étaient bien contents que les gens quittent volontairement. Mm-hmm. S'en aller du côté canadien. Puis, écoute, combien de compagnies de taxi, d'autobus là, qui annonçaient la Plattsburgh avec des grandes affiches Roxham Road. Hey, écoute, on en a vu plein. Hein. Mm-hmm. C'est fait que c'est rendu une grosse business. Hein. Alors, quand finalement ils ont décidé de mettre un stop à tout ça, ben là, les gens ont tenté de trouver une vole façon de le faire, d'arriver, puis ils en ont trouvé une. Parce qu'au même moment, c'est intéressant, au même moment où Trudeau annonçait qu'il mettait un terme à cette voie-là en modifiant, là, je ne vais pas aller dans le détail, mais il a modifié l'entente sur les tiers pays sûrs, ce qui fait que là, les gens ne pouvaient plus passer par Roxham. Mais il allégeait les critères pour obtenir un visa de visiteur. Parce que pour, à l'époque, pour obtenir un visa de visiteur, bon, tu venais d'un pays, mettons, n'importe quel, mettons le Maroc. Donc, pour venir au Québec, au Canada, ça te prend un visa de visiteur. Alors, tu dois démontrer que tu vas revenir à la fin de ton droit de séjour. Mettons, tu dis, moi, je m'en vais visiter le Québec pour deux semaines. Bien, voici, à la fin de mon deux semaines, j'ai mon billet de retour, tout ça, je reviens. Ottawa a décidé de laisser tomber cette obligation-là. Fait que l'agent qui traitait les demandes ne pouvait plus étudier est-ce que la personne est de bonne foi, puis est-ce qu'elle va quitter le Québec à la fin de son droit de séjour. Ce qui fait que là, beaucoup de gens ont obtenu des visas de visiteurs et là, faisaient des demandes en arrivant à l'aéroport. Donc, au lieu de le faire au chemin Roxham, là, ils le faisaient à l'aéroport. On a eu aussi toutes les fraudes et les magouilles au niveau des permis d'études. Beaucoup ont obtenu des permis d'études.
Les étudiants temporaires.
Et les étudiants étrangers temporaires. Beaucoup ont obtenu des permis d'études qui n'auraient pas pu les obtenir. En tout cas, il y a eu des enquêtes de la police et tout ça là-dedans. Et justement, beaucoup sont arrivés avec des permis d'études par la suite, puis qui se sont jamais présentés devant les institutions d'enseignement pour étudier, que ce soit à l'université ou au collège, toute une demande d'asile. Fait que là, tu sais, on a un peu réglé une situation pour créer un autre problème.
Mais il y a aussi, tu sais, même Radio-Canada, ils ont affirmé qu'il y avait comme, c'est quoi, c'est, je pense que c'est 68 000 personnes qui fallait qu'ils se fassent expulser du Canada. Puis là-dedans, il disait qu'il y en avait 32 000 qui étaient, qui avaient perdu, les autorités avaient perdu la trace, tu sais.
Ouais. Ça, je vais faire un petit bémol là-dessus, parce que pour avoir travaillé longtemps sur ce genre de dossier-là, quand on fait l'objet d'une mesure de renvoi, on a l'obligation, si on quitte, d'aviser l'agent à l'aéroport, entre autres, si on quitte par l'aéroport, donc de confirmer notre départ du Canada. C'est une des conditions qu'on a.
Par un douanier.
Oui. Si on le fait, on a un document qu'on remet, puis on fait signer ça, puis ça s'appelle confirmation de départ du Canada. Si on ne le fait pas, on est toujours considéré comme en sol canadien. Alors, il y a des gens qui ont quitté, pas en cachette, là, avec leur passeport, tout le kit, puis ils ont quitté volontairement, ils ont pris le billet d'avion, ils sont repartis, et ils ont oublié, ils ont tout simplement oublié de faire confirmer leur départ, parce que plusieurs années après, ils disent, ben moi, je vais faire une demande de visa, finalement, tu sais, je vais revenir rendre visite à des amis, de la famille, ça fait longtemps que, tu sais, que j'ai quitté. Et là, ils se font refuser, parce que, ben non, t'as un mandat. Moi, j'ai un mandat. Ben oui, t'as jamais quitté. Mais non, j'ai jamais quitté. C'est dans mon pays d'origine. J'ai fait une demande de visa. J'ai dû quitter certains. Donc, un peu fucké comme système. Ouais. Mais je te dis pas que la majorité des gens qui se retrouvent sur le coup d'une mesure de renvoi et qu'ils font l'objet d'un mandat d'arrestation et de recherche par les autorités, que sont tous des gens qui l'ont quitté. Mais on peut pas faire abstraction qu'il y a probablement une part, peut-être, je ne sais pas combien il peut y en avoir, mais il y a quand même une part à ne pas négliger de gens qui ne sont plus ici, qui ont quitté, d'autres aussi qui ont pu fuir parce qu'ils ne voulaient pas que les autorités sachent où ils s'en vont, peut-être. Mais il y a des gens qui ont quitté volontairement pour retourner dans leur pays d'origine, mais qui ont tout simplement oublié de confirmer ce départ-là. Puis là, ben, ils se retrouvent sur cette liste-là.
Mm-hmm. Comment se fait que le système d'immigration canadien, c'est ça, il y a de l'air. C'est ça, il y a de l'air désuet, là, tu sais. On dirait que la question est tellement sensible de parler d'immigration, autant de l'image politique à avoir, là, tu sais. Il faut aller chercher du capital de sympathie. Mais en même temps, tu sais, il faut quand même avoir une certaine rigueur, là, tu sais. Puis on dirait, à force de tout le temps balayer la question en dessous du tapis, ben là, on se ramasse avec des problèmes qui ne font que. Mm-hmm. S'accentuer puis grossir, tu sais, quitte à ce que des systèmes comme le système d'asile qui avait fait ses preuves, ben là, ça a l'air d'être la calisse de marde, là, cette affaire-là. Là, tu sais, m'excuse de le dire de même, là, j'ai pas fait de grandes études, là, moi, là. Mais tu sais, moi, je trouve ça triste parce que c'est comme tu le dis, ça brime autant sur ma tante en ce moment que, je sais pas, ils voudraient partir de l'Iran ou de peu importe des places où ils peuvent être persécutés. Puis là, ils se font, leur dossier va être noyé dans des demandes de personnes qui en ont strictement pas de besoin. Là,
mais c'est ça le gros problème. C'est ça le gros problème. Parce que.
Puis eux autres, c'est urgent, là, tu sais, si tu demandes l'asile.
Non seulement c'est urgent, mais bien souvent, ces gens-là sont séparés de leur femme, de leur conjoint, des enfants. Donc, tant et aussi longtemps que leur dossier n'aura pas été traité, qu'ils n'ont pas été acceptés, qu'ils ne pourront pas faire leur demande de résidence permanente éventuellement après plusieurs années. Ben, ils sont toujours séparés des membres de la famille. Donc, tu sais, il faut quand même réaliser cette situation-là. Tu sais, quand on dit, OK, tout le monde, venez, puis faites des demandes, on contrôlera pas. Puis quand que je disais, ben là, on rend service à personne, ben ça, c'en est un bel exemple. C'est-à-dire que plus que tu as de dossiers, hein, on parle de 200 000, ben sur les 200 000...
272.
Tu sais, mettons que tu en as, je sais pas, 272 000, tu sais, mettons que tu en as, je sais pas, moi, 60 000 que... Il n'aurait pas dû utiliser cette voie-là parce que ce n'était pas la voie appropriée pour eux. Ça aurait dû être un autre programme d'immigration, non pas le programme d'asile. Ben, pendant ce temps-là, ben, t'as des gens qui craignent pour leur vie, craignent pour les membres de la famille qui sont restés derrière eux, puis ils peuvent rien faire parce que là, t'as les délais qui s'accumulent, puis t'as les dossiers qui s'accumulent.
Mm-hmm. Mais qu'est-ce qu'ils ont à gagner, ces personnes-là, de faire ça? Est-ce que c'est parce qu'il y a des allocations ou des services que t'as automatiquement le droit si t'utilises les demandes d'asile comparativement si t'avais fait une demande d'immigration plus traditionnelle?
Ben, probablement qu'ils regardent. Hein? Ils regardent, ils soupèsent tout ça, puis ils se disent, ben moi, je fais une demande d'immigration, les critères, le délai. Probablement que je serais pas accepté. Fait que je mets ça de côté. Si j'arrive, je fais une demande d'asile, ben ça va prendre un certain temps.
Mais comment qu'ils savent ça de l'extérieur?
Ben non, mais tout le monde sait ça. T'sais, comment que les gens savaient? Ils auraient avec tout le petit papier chemin Roxham. Ça se parle. T'sais, ça se parle. Faut pas penser que ça se parle pas. Ça se parle. Mm. Les gens s'informent. Donc, ils se disent, il y a les délais. Je peux avoir un permis de travail. Je vais pouvoir travailler. Pendant ce temps-là, je peux envoyer de l'argent à ma famille dans le pays d'origine. J'accumule du temps, j'accumule, mettons, l'expérience de travail, des formations. Ma conjointe, peut-être je vais avoir un enfant qui va avoir la souveraineté canadienne, parce qu'il faut savoir que si, peu importe ton statut au Canada, des parents, si tu nais au Canada...
Le droit du sol.
Exactement. Tu as la souveraineté canadienne. Donc là, par la suite, ben là, si tu as une demande humanitaire... Donc, tu sais, ils doivent... Moi, j'imagine qu'ils doivent faire ce calcul-là en se disant, ben, j'ai peut-être des chances éventuellement de pouvoir quand même rester au Canada en passant par cette voie-là.
C'est... Parce que c'est sûr, parce qu'une fois que la demande finit par être traitée, même mm-hmm. s'ils se font refuser, ils peuvent toujours.
Il y a des recours. Il y a des recours d'appel, de contestation.
Ça peut prendre encore du temps aussi. T'sais.
Ah, on parle d'années.
Ouais.
On parle d'années.
Puis là, en même temps, tu sais, moi aussi, je pense que je rentre là-dedans dans ceux qui vont dire, tu sais, si tu vois quelqu'un que, effectivement, il n'a pas pris le bon recours, mais là, il est implanté ici, il y a un travail, il y a des enfants, toute la famille est déjà là. Tu sais, ça fait sans cœur de vouloir les crisser de mort après, là, tu sais.
Mais c'est ça le problème. C'est ça le dilemme.
Ouais.
C'est que tu te dis, OK, ces gens-là n'ont pas pris la bonne voie. Initialement, ils ne sont pas arrivés dans la bonne voie. Maintenant, la situation aujourd'hui, c'est laquelle? Là, tu dois supposer tout ça puis dire, bon, OK, est-ce que y a des gens qui disent, tu sais, puis je suis pas là pour dénoncer ou condamner, je dis pas que je suis d'accord, je dis pas que je suis pas d'accord, mais il y a des gens qui vont dire, ben non, tu es arrivé dans cette voie-là.
Illégalement.
Tu n'as pas été accepté, bien plate, ben, faut que tu quittes. Puis t'en as d'autres qui vont dire, ben écoute, la personne s'est intégrée, parle français, a maintenant des enfants, dans certains cas, une nouvelle conjointe ou un nouveau conjoint, a une maison, a investi. Des fois, même, il y en a qui ont des entreprises, ils ont des employés. Ben là, on peut pas se départir de cette personne-là.
Fait que c'est le pari qu'ils font.
Tu sais, je pense que, ben moi, je pense, tu sais... C'est les deux positions se défendent. Tu as des arguments pour, des arguments contre, je pense, dans les deux positions. Mais, tu sais, puis t'en as qui vont dire, ouais, mais là, si on n'expulse jamais personne, et je dis pas qu'on n'expulse pas jamais personne, je dis que si on en arrive à pas expulser, parce qu'on se dit, bon, les gens se sont établis, ben le message qu'on envoie, c'est pas un message de dire « n'utilisez pas cette voie-là ». Le message qu'on va envoyer, c'est au contraire « utilisez cette voie-là
mm-hmm. ». Mais moi, ma réflexion est tout le temps, en fait, tu sais, jamais plus en termes de quoi faire là pour régler ce problème-là, mais plus, pouvons-nous régler les problèmes en amont, là, tu sais? Moi, c'est souvent plus de cette manière-là que j'aime réfléchir, tu sais, au lieu de faire, parce que moi, là, il m'a laissé les experts parler, mais tu sais, mais par exemple, c'est ça de... Comment régler ça en amont, tu sais? Parce que là, ça voudrait dire qu'il faudrait tailler à vis de quasiment tous les traitements d'immigration
possibles. Mais là, le problème, t'sais? C'est que même si on le voulait, tailler à vis, comme tu dis,
ouais, c'est trop...
on n'a pas le pouvoir de le faire. C'est Ottawa qui l'a.
Ah, ça, tu parles pour le Québec.
Ben oui,
c'est ça.
Ben oui.
Ouais.
Ben écoute, c'est parce que la situation des demandeurs d'asile, là, à part l'Ontario maintenant, là, c'est Québec puis l'Ontario, là.
Mm-hmm.
Je veux dire, si tu regardes le nombre de demandeurs d'asile qui sont arrivés au Québec depuis 2016 et en Ontario versus les autres
provinces canadiennes, les provinces anglophones, on est à des années-lumière. Peut-être certaines régions, là, des maritimes, là, où ils ont reçu pour une année 35 demandeurs d'asile. Pendant ce temps-là, nous, on en recevait 30 000, puis eux disaient que leur capacité d'accueil était atteinte. Là.
Ouais.
On parle pas de la même affaire. Fait que quand on parle de demandeurs d'asile, la situation se trouve vraiment au Québec par l'Ontario.
Avant qu'on change de sujet, il y avait aussi une autre nouvelle qui a fait beaucoup jaser dans les médias. C'est, les chiffres, je ne sais pas si c'est les bons, là, mais c'est environ 25 000 demandes. Les commissaires, ils peuvent même pas les étudier. Ou ils les rencontrent pas. C'est ça, je pense, qui a fait...
J'ai vu ça dans la... Je pense que c'est la presse qui a sorti ça. C'est rien d'exceptionnel. Hein. À mon époque, ça existait, quand j'étais commissaire. Okay. C'est ce qu'on appelait le processus accéléré. C'est-à-dire que c'est des demandes d'asile qui sont traitées sur dossier et non pas dans le cadre d'une audience. C'est pas tous les dossiers qui sont traités comme ça, mais il y a une sélection qui est faite de dossiers qui sont manifestement bien fondés. Hein. Je veux dire... Actuellement, mettons, une femme iranienne qui refuse de porter le voile, OK? Ben, c'est iranienne, si c'est une femme, connaît la situation, fort possible que tu n'as pas besoin de l'interroger de midi à 14 heures, OK?
Mais y a-tu quand même une enquête qui est faite en amont?
Premièrement, pour qu'un dossier arrive devant le tribunal de l'immigration, ce qu'on appelle le déféré pour audience, là, qui est émis par un agent d'immigration, il y a des enquêtes en amont qui sont faites. Bon, examens médicaux, enquête de sécurité. Ouais, enquête de sécurité qui est faite avec les partenaires, États-Unis, Interpol, etc. Donc, oui, il y a des enquêtes qui sont faites. Par la suite, ben, faut que ton dossier, comme je dis, soit manifestement bien fondé. Donc, il faut qu'il soit bien documenté, bien monté. Et là, tu as une sélection qui est faite. Et là, ce dossier-là va être acheminé à un commissaire qui va recevoir faire une recommandation en disant, ben, est-ce que... on peut manifestement accorder le statut de réfugié à cette personne-là sans qu'elle soit obligée de passer par le processus régulier qui est de l'audience, ou non. Je considère que ce dossier-là mérite une audience. Donc, le processus accéléré, il ne passera pas, il s'en va en audience. Fait que c'est pas nouveau.
Okay.
Ça a toujours existé. Moi, j'ai connu mes collègues là, qui siégeaient là, au processus accéléré pendant des années. Donc, il n'y avait pas d'audience.
Que tout est clair, il n'y a rien de flou, puis...
Alors, c'est pas des audiences secrètes, là, tu sais, des dossiers secrets. Non.
Non, mais de la façon que ça a sorti dans les médias, c'est comme quoi que là, ils sont tellement débordés qu'ils en laissent plein passer, puis là, qu'il y en a qui passent entre les mailles du filet. Ben, tu sais, moi, en tout cas, c'est un peu la lecture que j'en ai fait.
Ben,
fait que je suis content de savoir que ça se faisait
là, déjà. La question qu'on peut se poser, c'est le nombre.
C'est ça.
C'est sur le nombre. Est-ce que là, le nombre est trop élevé? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que... Bon. À partir du moment où tu as de plus en plus de conflits à travers le monde, tu sais, que tu as de plus en plus de situations qui sont comme vraiment claires au niveau des risques de persécution, fait que peut-être que le nombre augmente à cause de ça aussi. Tu as plus... Tu sais, mettons, si tu as plus de dossiers d'Irak, de Syrie, d'Iran, d'Ukraine, ben ça se peut fort bien que tu vas avoir
la demande va être élevée.
Oui, puis tu vas avoir peut-être plus de dossiers qui vont être réglés par ce processus-là.
Mais tout à l'heure, tu parlais, puis je m'excuse de te couper, qu'il y en a qui tournent les coins ronds. Là, est-ce qu'il y a un danger pour ça quand tu vois un nombre de 25 000 demandes?
Ah, ben là, ça, c'est l'évaluation qui doit être faite. Est-ce que là, le dossier manifestement bien fondé, on étire la définition. Je suis pas là. Ouais. Je veux pas embarquer dans les théories du complot, dans les spéculations. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a fait état d'un système qu'on a essayé de démontrer que c'était nouveau comme situation, alors que ça n'est pas le cas, ça a toujours existé.
Okay, ça, c'était mal.
Il y a 30 ans, quand j'étais là, c'était comme ça. Maintenant, est-ce que le nombre, on peut s'interroger sur le nombre? Est-ce que là, on peut s'interroger aussi sur, justement, est-ce que les les coins ronds pour accélérer, pour traiter le plus de dossiers possible? Ça se peut. Puis, tu sais, il y a un autre phénomène qu'on n'a pas parlé puis qu'on constate, là, tu sais, toute la question de l'intelligence artificielle. Tu sais,
si il faut que tu mettes sur papier tes craintes de persécution, les craintes pour ta vie ou de retourner dans ton pays d'origine, puis là, avec tous les possibilités que l'intelligence artificielle te fournit, ben,
ah, ça te propose,
ben, ça se peut que tu aies des histoires aussi qui sont faites par l'intelligence artificielle, qui sont
des
tellement
demandes.
Bien faites, ben oui.
Oh, ouais.
Et là, t'as le commissaire qui a ça. Lui, il peut bien soupçonner que
se faire blairer,
c'est pas la personne qui l'a rédigé, ouais. Mais un soupçon, il faut que tu décides avec la preuve. Tu sais, tu peux pas décider sur des soupçons. Décide avec la preuve. Puis là, ben, la preuve, c'est ça que t'as. Fait que t'es obligé de décider avec ça. Mm. Mais de plus en plus, tu sais, c'est pas. Moi, je l'ai fait pendant 11 ans, là. C'est pas facile de décider. Hein. Parce que, des fois, t'as tout le temps une zone grise. Puis, faut que tu tranches. Puis, ben, la loi prévoit que si tu as un doute, ben, le doute doit bénéficier au demandeur d'asile. Donc, si tu dis, je suis pas sûr, hein, si tu pas sûr, tu as l'obligation de l'accepter.
Ah ouais?
Ouais. C'est si tu es sûr que c'est pas un vrai réfugié, c'est pas un réfugié, puis il doit pas bénéficier de la protection du Canada, ben, ça, tu dois rendre une décision négative. Mais si tu doutes, dans le cas d'un doute, le doute doit bénéficier au demandeur.
Mm.
Fait que c'est pas si simple.
Comment ça marche, le système d'immigration? T'sais, avant qu'on enregistre, je te disais ça. Comment ça marche, ce câlisse de système-là, tabarnak? C'est tellement compliqué. On dirait c'est fait de manière à ce que ça soit tellement compliqué que même le petit peuple n'est pas capable de comprendre ça. Ben, il y a tellement plein de noms, des réfugiés, des asiles, immigrants temporaires, étudiants temporaires. Lui, c'est un travailleur temporaire. Puis c'est tout pas la même affaire. Puis les champs de compétences sont tous pas les mêmes.
Exact.
C'est tellement fucking compliqué. Compliqué.
T'as Québec qui gère certaines choses, peu, mais quand même. T'as Ottawa qui gère le reste. C'est des gros ministères. C'est le ministère de l'immigration. C'est gros. T'as le ministère, mais après ça, la sécurité publique et l'Agence des services frontaliers du Canada. Gros ministère. T'as beaucoup de dossiers. Hein. Tu sais, les dernières fois que j'avais regardé les statistiques là, sur le nombre de demandes en instance de traitement à Immigration Canada, c'était 1,8 million. Travers le Canada. Parce que là, tu as des demandes qui sont faites pour immigrer au Canada à l'étranger. Des demandes de visa, des demandes de permis d'études, permis de travail, résidence permanente. Donc, tous les pays, là. Fait que c'est pas juste les gens qui sont au Canada qui font des demandes d'immigration. T'as tous les gens qui sont à l'étranger qui veulent aussi avoir un statut temporaire ou permanent ou même un titre de visiteur. Alors, ils avaient un point, ça a peut-être fluctué un peu à la hausse, peut-être un peu à la baisse, mais tu avais 1,8 million de dossiers en instance de traitement Immigration Canada il n'y a pas si longtemps. Alors, ça ne peut pas faire autrement à un moment donné que tu as des délais qui explosent. Puis
ben,
en même temps.
Si tu ne fournis pas des ressources pour pouvoir traiter ces demandes-là.
Puis, en même temps, autant Québec qu'Ottawa, les programmes changent régulièrement.
Ben oui, là, c'est le PEC. Là, là.
Ça change, ça n'arrête pas de changer. Je te le dis, même pour un avocat qui a de l'expérience, si tu dis, moi, je fais de tout. Réfugiés, économiques, humanitaires, travailleurs, étudiants, tu peux pas, tu ne te retrouveras plus, là, tu peux plus suivre. Ça roule tellement, ça change tellement. Ce qui est vrai aujourd'hui n'est plus vrai demain, puis il ne sera pas vrai dans deux semaines. J'exagère, là, mais ça change vraiment beaucoup.
Ah, ouais.
Et le pire, c'est que quand tu fais des demandes, ben, tu as des formulaires à compléter. Hein. Et souvent, le ministère, je m'en allais dire, s'amuse. C'est quasiment ça que je pense. Il s'amuse à changer le formulaire, mais juste la date en bas. Mise à jour, mars 2026. Formulaire est pareil. Veille sacrée. Les questions...
Ouais, je déteins un peu sur le monde d'un coup.
Les questions sont identiques. Le formulaire est identique, mais on a juste changé la date de mise à jour. Et là, si tu as le malheur de déposer une demande parce que tu avais commencé ton dossier il y a un mois... Too bad, ils vont te retourner ça en disant
ça marche pas.
Dossier incomplet, les formulaires sont pas à jour. Alors, tu comprends? Des fois, je me dis, est-ce que toutes ces règles-là, ces changements-là, c'est pas une certaine façon aussi pour éliminer des dossiers? Tu sais, mettons, là, t'as pas l'argent pour payer un avocat, faire tes demandes, tout ça, puis tu regardes tout ça, tu fais ça, à un moment donné, tu t'écœures. Tu te dis, hey, même trop compliqué, fuck. Je vais aller visiter la France à la place. Hein? Ou même tu fais une demande de résidence, puis là, ça prend des années. Tu te dis, bon, pourquoi, c'est quoi l'intérêt? Hey, faire une demande humanitaire, Moi, quand j'ai commencé, là, mettons une demande humanitaire, là, mettons un an et demi à peu près, ça prenait pour avoir une décision. Aujourd'hui, 10 ans.
C'est pour faire quoi? C'est une demande humanitaire? C'est,
pour avoir
c'est...
la résidence permanente pour des considérations humanitaires. Fait que si aujourd'hui tu fais une demande, tu n'auras pas de décision avant 10 ans. Pendant ce temps-là, tu ne peux pas sortir. Puis tu ne peux pas faire venir les membres de ta famille.
Fait que tu as le droit d'être sur le territoire?
Oui.
Mais juste ça?
En attendant une décision. Qui va arriver dans 10 ans? Et peut-être qu'on va dire négatif. Désolé, on n'accepte pas votre demande. Tu auras perdu 10 ans de ta vie. Est-ce que ça serait pas mieux de dire à cette personne-là, vous ne pouvez pas soumettre de demande, on en a trop, on ne peut pas les traiter dans des délais, vous avez d'autres décisions à prendre que de lui permettre de le faire, lui donner un espoir, puis c'est un faux espoir, puis lui dire que pendant, il faut que tu attendes 10 ans. Tu comprends?
Ouais.
Fait que tu sais, quand je dis... Vaut mieux, à un moment donné, contrôler, planifier, structurer, parce que ça va rendre... Tout le monde va en sortir gagnant. Bien, ça, c'en est un bel exemple. C'est pas en disant, oui, déposer toutes les demandes, c'est pas grave, déposer, puis on peut pas les traiter. Puis, ben pendant 10 ans, vous pouvez pas sortir, vous pouvez pas voyager, votre vie est à l'arrêt, est au neutre. Puis, ben peut-être en disant que je vais vous accepter, mais ça se peut que je vous dise non. Puis là... Tu avais un enfant de 5 ans, rendu à 15 ans.
C'est ça, c'est quoi que le Canada s'occupe? Lui, sa job, c'est quoi? C'est les demandeurs d'asile?
En fait, on va prendre la question à l'inverse. Qu'est-ce que Québec contrôle? Ça va être plus simple. Québec sélectionne son immigration économique uniquement. Alors, sur son territoire, lorsqu'on parle de demandeurs d'asile, parce qu'on parle qu'environ 600 000 résidents temporaires, hein? Donc, demandeurs d'asile, Québec n'a pas un mot à dire. Ni dans l'accueil, ni dans le processus, ni pour la détermination, rien.
C'est pas lui que ça s'adresse.
Après ça, tu as les travailleurs étrangers temporaires. Québec contrôle environ 25 % selon les différentes catégories, 25 % du nombre de travailleurs étrangers temporaires sur son territoire. Et les étudiants... Québec, par l'émission du certificat d'acceptation du Québec, contrôle 100 % des étudiants. Mais ça, c'est la catégorie qui a le moins au Québec. Alors, si tu regardes ça, Québec contrôle peu. Alors, tout ce qui est humanitaire, réfugiés, entrée express, tous les programmes, Québec n'a pas un mot à dire. Puis même dans ce qui contrôle, les étudiants, les travailleurs, l'immigration économique, bon, on parlait du PEC, maintenant le PSTQ et tout ça, ARIMA. En finalité, là, le permis, le visa, c'est qui le délivre?
C'est le fédéral. C'est ça.
Fait que même Québec, quand il dit oui, je l'accepte, le fédéral peut prendre un an, 2 ans, 10 ans.
Le dernier mot, c'est le fédéral.
Quand tu vas recevoir ton visa, c'est le gouvernement fédéral. Quand tu vas recevoir ton permis, soit permis d'études, permis de travail, c'est le gouvernement fédéral. Fait que c'est le fédéral parce que c'est lui qui contrôle l'entrée.
Qu'est-ce que le Québec aurait à gagner d'avoir le plein pouvoir de son immigration? On va dire dans un Québec-pays.
Quand tu as le plein contrôle de ton immigration, tu crées tes propres règles, tes propres critères, et tu t'assures que les critères vont respecter ta capacité d'accueil, ta capacité d'intégration, et puis ta capacité de francisation. Là, à partir du moment où c'est un autre territoire qui gère ça pour toi, ben lui, le français, il s'en fout. Là. Lui, la capacité d'accueil, là, il s'en fout. Là. Tu comprends? Alors, si on veut être capable de pouvoir accueillir dignement, intégrer adéquatement, offrir les services, et surtout, moi, quand je parle d'intégration, c'est la francisation, hein? C'est pas juste. Parce que, tu sais, j'ai tout le temps dit, puis mon mentor me dit, tu sais, Stéphane, si tu veux avoir une intégration réussie, ça passe par 2 choses au Québec. Le travail et la langue. Si les gens travaillent puis ils parlent français, habituellement, c'est des conditions gagnantes pour réussir l'intégration.
Mais le P, c'est ça, c'est maintenant dans un Québec, dans le Canada, je pense que c'est ça, la langue doit être vraiment considérée. Mais le P, c'est que dans un pays, on n'aurait même plus besoin de regarder ça parce que, tu sais, René Lévesque le disait, là, tu sais, lâchez-moi de me parler de la langue, là, tu sais, on... La langue, elle se vit là, tu sais, dans un ouais. pays, dans une nation. Puis je pense
mais
que...
Mais faut que tu mettes les conditions pour que les gens puissent la vivre, la langue.
Mais je pense plus que ça serait un problème, parce que là, vu qu'on aurait les pleins leviers, les pleins pouvoirs qui est redonné au Québec, aux Québécois, ah ouais. et non plus de gouvernement, mais redonné aux Québécois, ben moi, je pense que ça serait peut-être même plus un enjeu. Que
ben, c'est sûr
ça,
que...
La langue, elle se vivrait toute seule. Ouais. C'est peut-être un peu idéaliste, mon affaire.
Non, mais t'as peut-être raison. T'sais, je veux dire, à partir du moment où c'est toi qui contrôles ton immigration, mais tu mets les critères ouais. que tu veux, puis là, ben, si le critère de la langue devient vraiment le critère important, ben tu l'imposes. Puis à ce moment-là, ben justement... par la force des choses, tu as peut-être raison que la situation va s'améliorer par elle-même. Mm-hmm. Mais d'ici là, je m'excuse, mais si on ne prend pas les mesures qui s'imposent, ouais. y a rien qui va se régler.
Puis tu sais aussi, t'sais, ma tante, quand j'entends parler que... il y en a souvent, ils vont donner cet exemple-là, ils vont dire « Ouais, mais le Québec, t'as-tu vu, là? Qu'est-ce qu'ils font là en immigration? Est-ce qu'ils sont tous perdus? À quoi ça donne d'avoir un pays? Ils vont faire. Ça va être aussi pire que le fédéral, tout ça. Moi, ouais, mais je pense que la première raison à donner à ça, la première réponse à donner à ça, excuse, c'est. Ben c'est aux Québécois à décider par eux-mêmes, tu sais, d'avoir ces pouvoirs-là.
Ben oui.
Tu sais, même si en ce moment, oui, la CAQ fait un peu n'importe quoi, puis elle revient, puis elle dirige par sondage, là, reste que ce pouvoir-là revient au Québec et sinon à un autre pays à, ouais. à décider.
Tu sais, puis ça part de la tête. Hein. Je veux dire, si... tes agents, ton ministère va mettre en branle les politiques que la taille dirigeante édicte. Mm-hmm. Quand le gouvernement vote des lois, des programmes en matière d'immigration, puis que c'est tout croche, bien c'est sûr que ceux à la base sont obligés d'appliquer ce que l'autre a décidé qui était tout croche. Fait qu'on peut pas non plus se baser sur les 8 dernières années pour dire que le Québec, en matière d'immigration, c'est tout croche, puis si on était indépendant, on serait tout croche. Ça serait un autre gouvernement qui aurait les façons de faire différentes.
C'est malhonnête.
Qui prendrait probablement l'immigration aussi comme étant un dossier important. Parce que, tu sais, en 8 ans, là, il y a eu 5 ministres d'immigration différents. En 8 ans, avec la CAQ. Et le dernier, Jean-François Roberge, je m'excuse, là. Tu sais, j'ai rien contre Jean-François, là. Je pense que c'est un chic type, là. Mais il connaît rien comme ministre de l'immigration. Rien. Il ne maîtrise pas le dossier, puis il serait devant moi, puis je lui dirais la même chose. Jean-François, tu ne connais pas le dossier, OK? Puis probablement que ça ne l'intéresse pas, le dossier de l'immigration. T'sais, lui, il vient du milieu de l'éducation. Lorsqu'il était ministre de l'Éducation, je pense que c'était son dada, c'est là qu'il voulait aller. On l'a dégommé, on sait pourquoi, on l'envoie à l'immigration. Il ne maîtrise pas les dossiers, il ne connaît pas les dossiers, il dit n'importe quoi, et il fait n'importe quoi.
Y a-t-il quoi en particulier que...
Ben juste avec... Tu sais, juste la façon qu'il a géré l'histoire du PEC, juste la façon qu'il tente d'expliquer les programmes, d'expliquer la situation, c'est pas vrai. Ça va à l'encontre du gros bon sens, ça va à l'encontre des règlements, puis ça va à l'encontre de la loi, puis du programme. Tu comprends? Fait que tu peux pas dire une chose aussi grossière. Quand tu es monsieur, madame, tout le monde, ça se peut que tu connaisses pas ça. Puis ça se peut que tu dises n'importe quoi quand tu t'exprimes sur les médias sociaux ou ailleurs. Puis tu sais, c'est la force des choses, puis ça se peut. Mais quand tu es le ministre responsable et tu ne sais même pas, tu ne connais même pas ton dossier, puis tu t'en vas devant les médias pour essayer d'expliquer ton positionnement, puis d'expliquer aux journalistes puis aux membres des médias ta position, puis comment tu agis et pourquoi, puis que c'est n'importe quoi, bien là, comment tu veux que les gens peuvent avoir confiance? Fait que je comprends les gens qui disent une salle d'immigration du Québec, ils font n'importe quoi, ça n'a pas de bon sens, on est indépendant. Ben, un instant, là, c'est la CAQ qui fait n'importe quoi, c'est pas le gouvernement, là, c'est pas le Québec qui fait n'importe quoi. Fait que changeons de gouvernement, puis en même temps, hein, Jean-François Roberge, là, il n'est pas juste ministre de l'immigration, hein. Il y a 3 ou 4 ministères différents. Fait que moi, je pense que c'est un ministère qui est quand même important, c'est un gros ministère qui mérite d'avoir un ministre attitré exclusivement
Qui est peut-être
dossier-là.
Surchargé en ce moment.
Ben, tu sais, quand tu as plusieurs dossiers de front, plusieurs ministères, ben, il faut que tu prennes connaissance de tes dossiers, puis peut-être que celui-là, ben, il passe en dernier alors qu'il devrait passer en premier.
Tu sais quoi que le Québec pourrait améliorer, justement?
Bien, déjà dans les critères d'admission, okay, les délais de traitement, le nombre, parce que le nombre, c'est intimement lié au délai. Tu sais. Plus que tu as de dossiers, plus que ça prend de temps pour les étudier. Puis, ce que. Une des. Je comprends pas quand ça fait qu'on pense pas à ça, mais, tu sais, Parti québécois, bon, on pourra parler des chiffres, là, tu sais, au niveau des résidences permanentes, bon, les seuils de 35 000. Bien, nous, l'objectif, c'est de dire, regarde, là, il y a présentement 600 000 temporaires au Québec. On a des gens qui travaillent en français, on a des gens qui sont intégrés en français, qui parlent français, qui ont des enfants, qui sont déjà ici. Pourquoi aller chercher des résidents permanents à l'étranger? Puisons dans les 600 000 qui sont déjà ici, qui sont déjà intégrés. Personne ne fait ça. On va en sélectionner, mais ils continuent à sélectionner des résidents permanents à l'étranger. Nous, ce qu'on dit, c'est que pour un certain temps, moratoire sur toutes les demandes provenant de l'étranger, réglons ce qu'on a à régler présentement, arrêtons d'accumuler parce qu'on ne fait qu'empirer la situation. Mmh. Fait que ça, on pourrait le faire. Puis très facilement. Ça prend une volonté pour le faire.
Mais là, tu n'as pas les lobbies des chambres de commerce qui vont vous tomber sur le dos si vous faites ça?
Mais non, mais les temporaires sont déjà ici. Ça me fait rire. C'est comme si parce qu'un temporaire, un travailleur temporaire devient permanent, que l'entreprise perd son travailleur. Ben non, c'est juste un statut qui change. Il est permanent, il va pouvoir continuer à travailler. Pourquoi qu'ils ont peur qu'une fois qu'ils deviennent permanents, qu'ils ne travaillent plus pour eux? C'est-tu parce que les conditions de travail sont pourries? C'est-tu parce que les salaires sont pourris? Tu sais, il y a plusieurs années, là, on ne parlait pas, il n'y avait pas tant de travailleurs étrangers temporaires là, au Québec, là, puis de façon générale au Canada. Et là, on utilise ces gens-là, puis pendant qu'on a cette main-d'œuvre-là, puis, disons-le, là, à bon marché, bien, on ne se pose pas de questions sur est-ce qu'on doit améliorer nos conditions de travail? Est-ce qu'on doit améliorer nos conditions salariales? Est-ce qu'on doit améliorer nos façons de faire, entre autres par la robotisation? On ne se pose pas ces questions-là, on n'a pas à investir. On a la main-d'œuvre bon marché qui est là. Fait, tu sais, il y a ça aussi là, qu'il faut.
C'est un peu de la paresse, c'est bon?
Ben, je ne sais pas si c'est de la paresse. Je pense que. Non, je ne pourrais pas dire que c'est de la paresse, mais. Tu sais, c'est sûr qu'ils ont une position, ils ont.
La facilité, je veux dire.
Ils ont. Tu sais, les chambres de commerce, des hommes d'affaires, sont là pour faire de l'argent.
Mm-hmm.
Fait que la meilleure façon de faire de l'argent, ben, eux, ils vont aller là. Alors, si moi, je dis, ben, tu dois augmenter tes salaires, tu dois augmenter tes conditions de améliorer tes conditions de travail, tu dois peut-être investir dans la robotisation, améliorer ton usine, ton entreprise. Peut-être tu vas avoir toujours besoin de travailleurs étrangers temporaires, mais peut-être tu vas en avoir besoin de moins. Fait que ça va enlever, mettons, une pression. Parce que là, on peut pas continuer à vivre avec cette pression-là. Là, tu regardes les logements, tu regardes... Tu sais, je regarde les jeunes aujourd'hui qui ont l'accès à la propriété. Là, oublie ça, là. T'sais, quelle jeune famille peut se permettre d'acheter une maison aujourd'hui?
Oui, bien, puis ils ont arrêté de construire des maisons. Fait, t'sais.
Exactement. T'sais, tu regardes les loyers. Je regarde dans mon coin, je suis à Rive-Nord, puis tu sais, un 3,5, c'est à 1800, 2000 piastres. Tu sais, qui peut se permettre ça? Puis là, ben, tu as les jeunes qui veulent aussi vivre ce que leurs parents ont vécu, puis ils se disent, ben moi, je vois pas le jour où... Je vais pouvoir avoir un endroit pour fonder une famille, parce qu'il y a ça aussi. Si tu as un 3,5, là, tu te dis, OK, je peux-tu avoir 2-3 enfants? Tu as des gens qui vont dire oui, moi, ça me dérange pas. Tu en as d'autres que ça va peut-être être un frein, parce que là, OK, 3 enfants, mais là, ça me coûte 2000$ de loyer.
Ah, c'est sûr que ça parle dans le portefeuille. Là.
Ben, c'est ça. Fait que c'est tout ça. C'est pas simple, puis je pense pas que ça se règle avec un coup de baguette. C'est pour ça que je répète tout le temps, il faut planifier. Il faut planifier, il faut structurer. Puis tant et si longtemps qu'on n'aura pas cette planification court, moyen et long terme, tant qu'on n'aura pas un système structuré, organisé, qui va tenir compte de tous ces facteurs-là, je pense que ça va être tout le temps à recommencer. Puis, tu sais, je dis souvent la blague, mais tu sais, en immigration, la CAQ sont rendus des experts de la danse du cha-cha, tu sais. Deux pas en avant, trois pas en arrière, un pas à droite, un pas à gauche, et on recommence. Puis, c'est un peu ça, hein, t'sais. Finalement, ce qui arrive, bien, on fait du surplace, on n'améliore rien, tu sais.
Mais pourquoi qu'il y a des... Tu sais, j'imagine que c'est pas juste des Français, là, mais ça fait une couple de Français que je vois dans les nouvelles qui, genre, qui sont sur le point de se faire déporter, de se faire expulser. Puis genre, ils ont tout vendu, qu'est-ce qu'il y avait eux autres en France pour venir habiter ici. Puis genre, tu sais, c'est clair, tabarnak, c'est des Français. Fait que clairement, les mêmes valeurs occidentales. Ouais. Ils parlent français, câlisse, tu sais, fait que...
Là, il y a tu sais, je peux pas parler pour un cas bien précis, puis je peux pas faire une généralité, mais mettons, si on regarde, là, il tombe, mettons, dans deux phénomènes. Donc, les modifications qui ont été apportées par Ottawa puis les modifications qui ont été apportées par Québec, un parle pas à l'autre, et quand tu mets ça ensemble, ben ça met des situations comme ça où tu as des gens qui parlent français, qui sont bien intégrés, qui travaillent, tout ça, qui se retrouvent, le cul à l'eau, puis ils se disent « Ah, ben là, je code. » Je ne cadre plus dans aucune case, puis je vais quitter.
J'imagine que c'est pas juste
parce qu'on a changé les règles du jeu en cours de route.
Mais c'est ça, j'imagine que c'est pas juste des Français, ils vont avoir de toutes sortes, tu sais. Mais ça en fait une couple que je voyais dans les médias, tu sais. 4-5, facile, tu sais.
Ben, tu sais, quand tu changes les règles du jeu, tu sais, on parlait du PEC tantôt. Hein. Tu sais, je peux comprendre qu'un gouvernement veuille changer, mettons, les procédures, les programmes pour améliorer les programmes, améliorer les situations. Je suis d'accord qu'on puisse le faire, mais encore, on ne peut pas changer les règles du jeu en cours de route. Tu sais, je ne peux pas dire à une personne que j'ai été sélectionné à l'étranger, dire « Hey, si tu viens travailler, si tu viens étudier, ben tu vas être admissible après ça à pouvoir faire ta demande de résidence dans tel programme parce que tu vas rencontrer les critères, tout ça. » Puis là, la personne, parfait, abandonne tout, vend tout, arrive ici, après un an, deux ans, est sur le point là, de terminer son processus, puis d'être admissible à faire la demande. Puis là, on dit « Ah, ben non, désolé, tu peux plus. » Pourquoi? Parce que j'ai décidé de changer les règles, puis j'ai décidé de fermer le programme.
En cours de route.
Ouais, mais là, moi, t'es venu me chercher, là, ça fait 3 ans. Là, je suis admissible dans quelques mois. Ah non, désolé.
Ben, moi, je suis en tabarnak.
Tu comprends? Fait que c'est différent de dire que la personne qui est ici depuis un mois, deux mois, puis qu'elle aurait été admissible, mettons, dans 3 ans. On parle, juste pour que les gens puissent comprendre.
Mais c'est pas la même implication.
Mais là, si ça fait 2 ans, 3 ans, t'es ici, puis t'étais sur le point de pouvoir être admissible, pas te dire non. Tu comprends? Fait que c'est pour ça, tu sais, quand on parle, tu sais, dans les médias, on parlait beaucoup de clause grand-père. Oui, pour le PEC, mais encore faut-il décider qui va être admissible à cette clause-là. Parce que là, tu as des gens qui disent « Ah, ben tous les résidents temporaires au Québec devraient être admissibles. » Mais là, ça fait plusieurs milliers.
Hein? C'est là que ça devient compliqué.
Mais là, ça devient compliqué parce que là, après ça, tu as des gens qui disent « Ouais, mais là, ils ne sont pas tant que ça au Québec qui seraient admissibles. » Ouais, mais c'est parce que ces gens-là, dans certains cas, ont des conjoints à l'étranger, ils ont des enfants. Et quand tu fais la demande, ils peuvent faire venir. Fait que là, faut pas juste dire « Ah, ben c'est juste tant de personnes. » Non, non, mais tant de personnes qui peuvent avoir... d'autres gens à l'étranger qui vont être admissibles par le biais de la demande du demandeur principal. Donc, il ne faut pas aussi négliger ça. Alors, tu as des gens qui disent « Non, non, ça va juste être 17 000. » Wow, un instant, là, un instant. On est loin de ça. Là. Fait que c'est pas simple.
Ouais, ça n'a pas de l'air simple. Pour vrai, j'essaie de suivre là, tout le temps, là, mais ouais.
Et même pour des avocats en immigration, des fois, c'est pas simple.
Ben, c'est ça, qu'il y a plein d'expérience là-dedans. Avant qu'on se quitte, j'aimerais ça qu'on parle des cas que tu as défendus, qui a fait beaucoup jaser, là, tu sais. Mais avant de parler de ceux qui ont fait jaser, il y a ton premier cas, ton premier dossier, c'est ta mère qui te l'a référé.
Oui, eh oui, c'est... Premier dossier, mettons, d'immigration, parce que quand j'ai commencé ma pratique, j'ai commencé en droit criminel, puis après ça, j'étais allé travailler pour la commission de l'immigration. Fait que quand je suis parti, puis j'ai parti mon bureau en droit de l'immigration, là, évidemment, tu cherches, tu sais, tu vas essayer de trouver des clients, fait que t'as beau à faire la publicité, tout ça, bouche à oreille, tu rencontres des gens. Puis mes parents, avaient à l'époque des locaux commerciaux... en bas de chez eux, qui louait, puis y a un gars qui dit « Hey, moi, j'ai un de mes amis là qui a besoin d'un avocat en immigration. J'en connais un bon, moi! » Il avait donné ma carte, parce que j'avais donné, évidemment, à ma mère, quelqu'un qui parlait beaucoup, hein, puis qui se promenait, puis fait que j'avais donné des cartes d'affaires. Il avait donné une carte, il m'avait appelé. Il est venu me rencontrer, puis j'avais fait son dossier. Je l'avais gagné!
Ouais.
Mon premier dossier, j'avais gagné. Fait que un dossier de demandeur d'asile, bien content.
J'imagine que des fois, c'est ça doit être quand même crève-cœur. Tu sais, quand tu t'investis, oui, effectivement, il doit y avoir un esprit de compétition. Tu veux gagner, mais en même temps, tu t'investis, tu mets beaucoup de temps là-dedans. Fait que j'imagine quand tu te fais... c'est ça, tu crées des liens avec cette personne-là. Tu l'as dit en début de podcast que faut que tu crées un lien de confiance. Fait que tu sais, quand le dossier est refusé, tu perds. Ça doit être crève-cœur par moment.
Ça, c'est un autre... une des raisons que entre autres, tu sais, j'en avais pas parlé à personne à l'époque, mais qui me trottait dans la tête, là, qui m'emmenait aussi à prendre la décision de dire, regarde, là, je suis tanné. À longueur d'année, avec le temps, tu te formes une carapace. Parce que, comme je dis, les gens qui font des demandes d'asile, c'est jamais pour raconter des belles histoires. C'est tout le temps des histoires d'horreur, des histoires de torture, de violence, de maltraitance. Fait que tu te formes une carapace parce que tu peux pas faire, tu peux pas y arriver.
Tu passeras pas à travers. Là.
Tu passeras pas à travers, surtout quand il y a des enfants là-dedans. Moi, ça me chavirait. Fait que tu te fais une carapace. Tu deviens pas insensible, mais tu gardes une distance, justement pour préserver ta santé mentale puis physique. Mais là, avec les années, j'ai commencé à constater que cette carapace-là a commencé à avoir des fissures. Puis là, ça a commencé à m'atteindre de plus en plus. T'sais, je parlais avec des enfants, tout ça, puis là, tu sais, quand je me souviendrai tout le temps d'un dossier où la petite fille m'accroche par le pantalon, on est pour aller à l'audience, puis elle me tire par le pantalon, elle dit, « Tadji, je me fie sur toi pour que mon papa revienne à la maison. Hey, tabarnak. » Tu sais, comment...
Ça vient te chercher.
Puis je me dis, bon, c'est pas tout le temps des situations faciles. Fait que non, c'est ça. T'sais, la carapace commençait à fissurer. Puis là, je me dis, non. Jumelé à plein d'autres facteurs qu'on a parlé tantôt. Je dis, bon, ben, c'est le temps est arrivé. Mais ouais, il y a des dossiers que tu perds, que tu traînes ça longtemps. Tu dis, écoute, il me semble. Je méritais de gagner ça, c'est un bon dossier. T'en as d'autres que tu t'attends, tu sais, que tu dis, bon, regarde, t'as vraiment tout fait, parce que moi, quand je prenais un dossier, ben, je me mettais corps et âme, tu sais.
Mm-hmm.
Tu le perds, tu dis, bon, tu sais, c'était peut-être à prévoir, c'était difficile, tu sais, il y avait un point de droit, mais, tu sais, c'était quelque chose de particulier à défendre, puis bon, ça n'a pas fonctionné,
t'sais. Ben, des fois aussi, tu dois avoir peur que tu dis, hey, Chris, c'est peut-être la dernière fois que je le vois, là, lui. Hein, peut-être qu'il va y passer.
Ben, tu sais, tu dis, la personne va être expulsée. Et si, mettons, c'est vrai ce qu'elle dit, et puis c'est vrai ce qui est arrivé, parce que tu parles tout le temps, tu parles du principe, excuse, que ce qu'elle te dit, c'est vrai.
Ouais.
Sinon, si tu crois pas, tu le prends pas le dossier.
Mm-hmm.
Moi, les gens que je ne croyais pas quand que je les rencontrais, l'entrevue initiale, puis. J'avais, mettons, la misère. Je me disais, je pourrais jamais développer une relation de confiance. Je pourrais jamais défendre ce dossier-là, non. Corps et âme. Je le prends pas, tu sais. Puis, mais quand tu prends le dossier, tu te dis, wow, OK, tu l'as perdu, là. Et il va y arriver quoi avec lui, là, tu sais.
Ah, c'est sûr, là.
Ouais.
Le dossier que tu as plaidé à la Cour suprême,
ouais.
C'était quoi, ça?
Et ça, c'est un dossier... C'est juste... C'est intéressant pour une question de droit, parce qu'il n'y a pas vraiment d'enjeux particuliers. C'est vraiment une belle question de droit. C'est que c'était une personne qui avait été reconnue comme réfugiée au Canada. Elle a fait une demande de résidence permanente. Elle avait eu la résidence permanente. Et entre-temps, le pays d'origine avait émis un mandat d'arrestation pour extradition. Excuse. On l'accusait d'une histoire banale, là, d'utilisation d'un faux visa là, de 900$ US. C'est quelque chose de ridicule. Mais ça tombait sur le coup d'une demande d'extradition. Et donc, il avait été arrêté. Et les autorités avaient ordonné son extradition. Sauf que, et là, c'est là que la question de droit devient intéressante, c'est à partir du moment où c'est un réfugié, le ministre de l'Immigration doit être consulté. Pour savoir, est-ce que cette personne-là a toujours une crainte de retourner dans son pays d'origine? Et là, le ministre avait dit, vous ne m'avez pas fait la preuve que vous avez toujours une crainte de retourner dans le pays d'origine. Puis là, je dis, pas à moi à faire cette preuve-là. C'est à toi à démontrer qu'il n'y a plus de crainte de retourner dans le pays d'origine. Lui, il a été reconnu comme réfugié.
Là, son statut.
Toi, si tu veux l'extrader, fais la démonstration qu'il n'y a plus de crainte pour lui. Et donc...
On a contesté la Cour suprême et la Cour suprême nous a donné raison. A annulé l'extradition. Sauf que là, le ministre dit « OK, je vais le faire, l'exercice. » Et je conclue qu'il n'y a plus de crainte pour lui de retourner. Fait qu'ils l'ont quand même extradé.
Okay.
Fait que je l'ai gagné, mais sans finalité, ça n'a pas donné grand-chose.
Ça n'a donné rien.
C'est ça, ben,
ouais.
On a ce principe-là maintenant juridique qui est clair.
Ouais. Jurisprudence.
D'un dossier d'extradition qui concerne une personne qui a déjà été reconnue comme réfugiée. Donc, si l'extradition est vers ce pays-là, ben là, il y a une évaluation que le ministre de l'Immigration doit faire puis en une décision. Mais dans mon cas, peut-être que dans d'autres cas, ça va être utile puis pertinent puis que ça va faire en sorte que les gens ne seront pas extradés. Mais dans mon cas, finalement, ça n'a pas donné grand-chose.
Puis celui qui t'a parlé tout à l'heure d'espionnage,
oui.
Lui, il était accusé d'être un faux...
En fait, lui, ça a été très, très médiatisé, ce dossier-là. Pas rien qu'au Canada, pas rien qu'au Québec, mais un peu partout à l'étranger. Il était... c'est devant la Cour fédérale, ce qu'on appelle un certificat de sécurité. C'est-à-dire que lui, il se faisait passer pour un citoyen canadien, mais ça n'en était pas un, selon les autorités. Et donc, sous le coup d'un certificat de sécurité, c'est qu'on voulait faire en sorte que malgré ses prétentions de citoyenneté canadienne, qu'il l'expulse du Canada. Et finalement, bon, avec le temps, les négociations, les discussions, la preuve, tout ça, la personne accusée avait décidé de laisser tomber et donc de quitter pour retourner dans son pays d'origine. Fait qu'il avait été expulsé dans son pays.
Parce que volontairement.
La preuve avait, tu sais, il était quand même détenu, puis la preuve avait démontré qu'il n'était pas citoyen canadien. Fait que ça ne donne rien de se battre dans ce cas-là pour contester un certificat de sécurité qu'en finalité, ça va être les services frontaliers qui vont t'expulser. Que ce soit la GRC qui t'expulse sur un certificat de sécurité ou que ce soit les services frontaliers sur le coup d'une mesure de renvoi parce que tu n'as pas de statut au Canada.
Puis toi, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu essaies de chercher...
Ça a été intéressant parce qu'il y avait des... Écoute, moi, c'est un dossier assez impressionnant. Tu avais des policiers dans la salle avec les cagoules, les carabines. C'était un une grosse affaire. T'sais? Et je me sentais un peu intimidé. Fait que j'ai demandé à un de mes chums, un collègue, je disais, hey, j'aimerais ça que tu m'assistes dans ce dossier-là. Et nous, on était deux. Puis écoute, de l'autre côté, du côté du ministère, je pense qu'il était 8 avocats. Je me rappelle bien les avocats du ministère de la Justice, ministère de l'Immigration, du SCRS, de la GRC, de Montréal, d'Ottawa. En tout cas, il était une gang. Puis là, arrive le moment où je dois contre-interroger leurs témoins. Puis c'est souvent ben, des policiers, des gens, des services de renseignement et tout ça. Puis dès que je posais une question, écoute, il se levait tout en cœur. Objection sécurité nationale. Objection sécurité nationale. Objection. Fait que là, je suis rendu, je faisais des blagues au juge. Bon, mais je vais poser une question, mais je vous annonce déjà qu'ils vont tous se lever pour soulever une objection sécurité nationale. Puis c'est exactement ce qu'il faisait. Puis là, un moment donné, le client dit, regarde, ça me donne rien de me battre, là. J'expliquais tout ça, là, que finalement, si t'es pas capable de prouver que t'es Canadien, ils vont t'expulser pareil. Fait qu'il a décidé de concéder. Puis là, il dit, moi, je veux partir. Fait que là, on est rentré dans le bureau du juge, on discute. Et quand on revient, le juge regarde toute la gang de l'autre bord, puis dit, vous devriez leur remercier pour le cadeau qu'ils viennent de vous faire. Et à ce moment-là, je me suis dit, merde, le certificat de sécurité, je le gagne. Fait que la raison pour laquelle il avait été accusé, je le gagnais. Mais j'avais été transparent avec le client en disant, ça, contester ce point-là, c'est le fun pour moi. Comme avocat, je défends un principe juridique qui est intéressant, qui reviendra probablement jamais dans ma carrière. Mais pour toi, la finalité va se ramasser la même affaire, t'sais. Fait qu'il avait décidé, il était bien content là, que j'avais été très transparent avec lui, puis j'avais expliqué de long et en large tous les tenants et aboutissants, facteurs positifs, facteurs négatifs, stratégie, tout le kit, puis il avait dit, regarde, je prends cette décision-là. Puis mais finalement, quand le juge avait dit ça, je le savais que ce point-là, je le gagnais, mais ça n'aurait rien changé pour lui.
Hey, gros merci, Stéphane. Hey,
ça a été super plaisant.
C'était cool. Vrai.
C'était vraiment cool.
T'as aimé ça?
Je veux revenir.
Ben, t'en reviendras, mon gars, man. Peut-être là, comme député, parce que est-ce que tu vas te présenter en 2026?
Ben, écoute, je peux pas faire d'annonce aujourd'hui.
Ah, OK.
Mais regarde, il y a un processus, puis le processus va suivre son cours.
Bon, ben, parfait.
Mais l'intérêt est là.
OK, cool. L'intérêt est là. Peu importe, député ou pas, t'en reviendras. Faut pas que tu m'endures, moi, sacré, par exemple. Ouais,
avec, quand je vais être plus vieux avec ma marchette.
Gros merci, Stéphane and Phil. Si on veut te suivre, t'es sur Facebook, je crois bien.
Facebook, Twitter. Instagram, je les ai tous. Mm-hmm. Je suis pas très. Ben, ouais, je suis un peu présent, pas tant que ça. J'ai pas 20 000 abonnés, là.
Okay.
Mais on peut me suivre là-dessus.
OK, bon, ben, c'est bien cool. Puis, j'aimerais ça dire aussi un gros merci à mes commanditaires procafetière.ca et les cafetières Bellucci qui t'offre aujourd'hui ce beau sac de café-là.
Tout seul,
c'est tout tatoué, puis ça va te tenir éveillé.
On va essayer ça dès demain matin.
Si le monde veut se le procurer, il est disponible au procafetière.ca. Puis vous pouvez faire toutes vos commandes là-dessus, hein, que ce soit des cafetières ou vos poches de café. Ils sont super rapides, c'est sécuritaire. Puis en plus, si vous utilisez le code de promotion JER20, vous allez avoir 20% de rabais. Ça a l'air, ça fait un bout, ça existe, j'ai oublié de le dire.
Je vais le prendre en note, JER20.
Oui, c'est ça, 20% de rabais. Fait qu'un gros merci à procafetière.ca. Puis si vous voulez m'encourager, vous voulez voir tous les podcasts d'avance, puis pas besoin d'attendre avant qu'ils sortent, avant qu'ils soient disponibles pour tout le monde, et les écouter sans publicité, ben vous pouvez toujours vous abonner, devenir membre au patreon.com. Ça va m'aider à pouvoir financer ce beau podcast-là, puis pouvoir continuer à le faire. Fait qu'un gros merci à Stéphane Enfield d'être
merci
venu
de l'invitation.
Sur le podcast, puis je te laisse le mot de la fin.
Ben, écoute, il va y avoir une belle année qui s'en vient. Il y a des élections en octobre prochain.
Ouais.
Donc, ça va être important de suivre ça, puis ça risque d'être fort intéressant.
Puis vive le Québec libre!
Ouais, absolument!
Merci beaucoup tout le monde. Passez une belle journée. On se revoit la semaine prochaine. Salut, bye!